Le gouvernement était en situation de panique parce que les dirigeants pensent qu'il y a un complot qui est en train de se préparer, il y a un coup d'État en cours et du coup ils passent par la répression totale et radicale contre les manifestants. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, il ne faut pas oublier que la société irakienne est passée par la militarisation, voire la milicisation de la société irakienne. Aujourd'hui, cet État milice, vous n'avez pas un État qui lutte contre ces milices ou contre des milices. Vous avez un État milicien, vous avez un État qui a institutionnalisé les milices à la fois dans le territoire chiite, sunnite et kurde. Et de ce fait, la violence s'est transformée en un fait normal, normalisateur. Autrement dit, la violence, malheureusement, est devenue une culture. La troisième raison, c'est que cet État-là, en soi, ne maîtrise pas la violence légitime. Certains acteurs miliciens sont totalement autonomes dans la gestion de la violence. Voilà les causes principales de cette radicalisation ou de cette réaction radicale de la part de l'État irakien ou des dirigeants irakiens.
Le gouvernement a annoncé 17 mesures sociales, dont une aide au logement, des allocations aux jeunes sans emploi. Pensez-vous que ces mesures peuvent faire retomber la colère populaire ?
Je pense absolument pas. Pourquoi ? Parce que selon les enquêtes réalisées par mon centre de sociologie de l'Irak, achevées il y a 2 semaines, 89% de la population irakienne n'ont aucune confiance en cette classe politique qui dirige le pays de 2003 à 2019. Je répète bien 89%. 85% de la population irakienne pense qu'il vaut mieux confier la gestion du pétrole irakien à une institution internationale et non pas à l'État irakien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, entre 2003 et 2019, il y a eu 317 milliards de dollars partis en corruption. 317 milliards de dollars. De ce fait, à ce jour-là, et pour la première fois, la société irakienne est traversée par la lutte, la conflictualité de classe. Vous avez ce que j'appelle la haute bourgeoisie irakienne, produite par un produit artificiel de cette corruption qui a un écart avec la base sociale de la société irakienne estimée à 363 ans. Autrement dit, un jeune qui manifeste, engagé dans le mouvement de contestation, doit travailler 363 ans pour avoir les revenus d'une année d'une personne qui fait partie de la haute société. Alors la rupture est tellement totale, ces mesures d'Adel Abdelmahdi ne peuvent pas malheureusement éradiquer cette colère.
Quel est le profil de ces manifestants dans les rues irakiennes, donc plutôt des chiites ?
C'est un mouvement à l'intérieur de la maison chiite. Deuxième élément, c'est une génération qui n'a pas connu le régime baathiste, qui n'a pas connu le totalitarisme, la violence extrême, les guerres du parti baath et de Saddam Hussein. C'est une génération née un peu avant la chute ou après la chute de Saddam Hussein. Et donc, c'est une génération qui n'a connu que la corruption et la militarisation et le terrorisme, bien évidemment, de l'État post-Saddam. Troisième élément, c'est que ce mouvement n'a pas de leader. C'est un mouvement des jeunes organisés, le seul organisé sur Facebook. Il n'y a pas un complot, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un parti politique, mais une colère légitime d'une génération livrée à elle-même et qui n'a aucune perspective dans un État en cours de décomposition.
Et alors, dans ce mouvement, quel est le rôle des leaders religieux chiites ? Deux déjà se sont exprimés, mais quel est leur rôle ?
Le rôle des oulémas chiites, c'est protéger le système en place. C'est grâce à ce système-là, il faut le dire, en 1921, lorsque les Anglais, les Britanniques arrivent en Irak, ils confient la clé du pays à la minorité sunnite. Et de ce fait, à la majorité chiite qui composait à l'époque, en 1921, 51% de la population était totalement exclue. Je parle même dans mon livre de la déchiification de l'État. Les chiites vivaient d'une situation de frustration totale, frustration politique, sociale, et culturelle, éducative, économique de 1921 à 2003. À 2003, grâce à l'invasion de l'Irak par les Américains, ils arrivent au pouvoir. Les Américains confient l'Irak à cette majorité chiite. Alors aujourd'hui, les politiciens, mais aussi les religieux, pensent que l'État irakien doit rester aux mains des chiites et il faut le protéger par tous les moyens, y compris par la répression.
Et donc l'Iran, qui est l'allié de Bagdad depuis la chute du régime de Saddam Hussein, le grand ayatollah Ali Khamenei, iranien, a accusé aujourd'hui des ennemis de chercher à semer la discorde en Irak. Qui sont ces ennemis auxquels fait référence l'ayatollah iranien ?
Écoutez, l'Irak est dirigé de 2003 à 2019 par un accord entre 12 antagonistes, 12 acteurs en conflit, à savoir Washington et Téhéran. Ce partenariat implicite, je dis bien implicite, par ces deux capitales antagonistes et en conflit sur d'autres terrains, a permis à cet État irakien de rester en place et ne pas d'imploser malgré le référendum de l'indépendance du Kurdistan en 2017, malgré la prise de presque la totalité du territoire sunnite par les combattants de l'organisation de l'État islamique. Dans les deux moments très très difficiles, l'Iran et les États-Unis sont intervenus tous les deux pour sauver l'État irakien. Aujourd'hui, parce qu'il y a une tension brutale entre Washington et Téhéran, cette conflictualité, cette tension se traduit sur le terrain irakien. Ce qui est entré en déséquilibre, c'est cet accord implicite entre ces deux capitales pour gérer l'Irak. Plus Washington et Téhéran s'enfoncent dans la conflictualité, plus le terrain irakien devient plausible.